Émission spéciale. Aujourd'hui, appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
De retour à Cotonou pour une émission exclusivement consacrée aux conférences nationales en Afrique. Demain, cela fera tout juste 35 ans que prenait fin la conférence nationale des forces vives du Bénin, la première du genre en Afrique francophone qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie, notamment en mettant fin au parti unique. Autant dire qu'au Bénin, le 28 février est un jour tout aussi important que la date de l'accession du pays à l'indépendance. D'ailleurs, si vous nous écoutez à Cotonou dans ces environs, je vous invite à nous rejoindre dans moins d'une heure à l'hôtel Azalaï pour l'enregistrement d'une émission en public et avec nos invités, nous retracerons le chemin parcouru ces 35 dernières années. Le Bénin est-il toujours une référence en matière de démocratie? Soyez évidemment très nombreux et cette émission, vous l'écouterez demain matin sur l'antenne de Radio France Internationale. En tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afrique et à ces nombreux pays qui se sont inspirés de l'exemple béninois en organisant également des conférences nationales. Vous en parlez évidemment avec nos invités. Gilles Yabi, juste avant le journal, on avait un auditeur du Gabon qui disait « Eh bien oui, à l'époque, on avait peur du multipartisme ». Vous comprenez cette réaction ?
Oui, je pense que l'auditeur soulignait bien qu'il était militant du
parti au pouvoir, le PDG.
Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans tout scénario de changement politique, il y a ceux qui veulent le changement pour une diversité de raisons, et puis il y a ceux qui sont dans le système généralement et qui ont des privilèges associés au fait d'être proche ou de faire partie de l'appareil qui est au pouvoir et qui évidemment se battent plutôt contre le changement. Donc après, à nouveau, je pense que on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le multipartisme n'est pas la démocratie, n'est pas l'état de droit, c'est un élément important, mais il y a bien sûr aussi un bilan à faire après, ici au Bénin, 3 décennies après la conférence nationale, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'insuffisances et même de reculs sur le plan notamment de l'état de droit.
On aura largement l'occasion d'en parler demain dans l'émission spéciale exclusivement consacrée au Bénin. Gilles Yabi nous accompagne jusqu'à 9h, temps universel. Analyste politique, fondateur de Wati. Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, est également à nos côtés ce matin. On parlait du Gabon juste avant le journal. Il y a eu, certes, une nouvelle constitution, certes, il y a eu le multipartisme, mais il n'y a pas eu d'alternance à la tête de ce pays. Le président Omar Bongo est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Son fils a pris la suite. Quelle analyse ça vous inspire ?
C'est le président Chirac qui disait que les Africains n'étaient pas mûrs pour la démocratie parce que l'alternance suppose qu'on ait une culture démocratique. Or, beaucoup sont alliés à la conférence nationale, peut-être sous l'injonction de la France après la conférence de la Baule, qui liait l'aide au développement à la démocratisation. Donc, c'était une démocratie de façade. Mmh. Vous avez vu, le Gabonais vous a rappelé que la conférence n'était pas souveraine. Or, la spécificité au Bénin, c'est que la conférence était souveraine. Mais nous avons gardé le président Kérékou, au moins pendant la transition, même s'il n'était plus le chef du gouvernement, à côté d'un premier ministre. Au Togo, par exemple, ils ont décidé, en allant au-delà de ce qui a été fait au Bénin, de dépouiller Yadema de toutes ses prérogatives. Ce qui a entraîné une tension qui a nécessité la médiation et de Monsieur de Souza, et de moi-même, et du président Maga, nous sommes allés les rencontrer pour discuter, mais il est malheureux de constater qu'il n'y avait pas d'entente entre les organes de la transition. Ces conditions n'ont pas permis, à mon avis, que la conférence ait les mêmes résultats, les mêmes retombées du point de vue du renforcement de la démocratie dans certains des États où cela a pu avoir lieu.
Et chaque exemple est évidemment intéressant à décortiquer ce matin. Bonjour Oumar.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes à Bamako, au Mali. Vous aviez 10 ans, vous, à l'époque de la conférence nationale au Mali, en avril 1990. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là ? Vous disiez au Standard, autour de moi, tout le monde parlait de liberté.
Effectivement, comme vous l'avez dit, nous, enfants à cette époque, on regardait un peu toute cette masse de personnes qui sortaient, qui criaient, qui parlaient de démocratie, qui parlaient de changement. Mais au-delà de l'aspect changement, c'était plus la participation du peuple à la chose du peuple, qui est le pouvoir normalement. Et c'était tout cet engouement-là qui, autour de ces populations, animait quand même la vie au Mali, surtout à Bamako.
Oui. En tout cas, à l'époque, c'était Atété hein, qui était aux commandes du pays, si ma mémoire est bonne.
Le feu président Amadou Toumani Touré, qui était venu et ils avaient organisé du 29 juillet au 12 août 91, c'est-à-dire juste après le coup d'État du 26 mars 91, ils avaient organisé cette conférence-là qui a eu lieu et il y a eu vraiment la participation de beaucoup de personnalités et de certaines franges de la population, que ce soit les militaires eux-mêmes, que ce soit les partis politiques, que ce soit les représentants des Maliens de l'extérieur, les membres de la rébellion Touareg, il faut le dire, parce qu'en 91, on sortait d'une... Voilà.
Elle était vraiment inclusive, la conférence nationale dans votre pays. Je parlais d'ATT Amadou Toumani Touré, qui, contrairement à d'autres dirigeants de l'époque que nous citions il y a quelques instants, lui, ATT, a respecté ses engagements, puisqu'il a vraiment rendu le pouvoir aux civils.
Exactement, mais bon, vous savez, le président ATT, c'est une personnalité, c'est une icône, et bien qu'il y ait eu un coup d'État qu'il a subi, hein, lorsqu'il finissait son second mandat, qui a ouvert les portes même à ce qu'on a connu à partir de 2012-2013, toute la rébellion, enfin, tout ce qui s'est passé au Mali ici, c'est quelqu'un quand même qui a tenu ses engagements, qui a rendu le pouvoir aux civils, qui a eu, après le président Konaré, Alpha Omar Konaré, qui a fait 10 ans de pouvoir, donc après ATT est venu et du coup ça a permis une alternance au niveau politique et puis dans le cadre de la démocratie. Et pendant 30 ans, parce que quand vous prenez de 91 jusqu'en 2021, il y a eu, bon, c'est vrai, le coup d'État qui a été fait sous le président ATT lui-même. Oui. Donc ça, c'est un peu l'ironie du sort, parce que lui il fait un coup d'État pour rétablir la démocratie et du coup lui aussi on lui fait un coup d'État. Tout compte fait, ça a permis quand même de passer à la démocratie, au pluralisme pendant, si vous voulez, 20 années, quoi. Et du coup, on a appris beaucoup de choses. Les Maliens ont compris que on pouvait gérer autrement, on pouvait faire participer les populations, avoir une feuille de route, organiser la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle dans un cadre démocratique.
En tout cas, vous en gardez un très beau souvenir. Merci Oumar pour ce témoignage de Bamako. Théodore Rollo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous observais, vous écoutiez attentivement notre auditeur de Bamako.
ATT fut un grand homme d'État, non seulement après le coup d'État qui a renversé Moussa Traoré, il a fait la transition, il est parti, il est revenu après les deux mandats de Oumar Konaré, oui. Il a été élu président, il a été renversé par le coup d'État. La CEDEAO a contraint les militaires à restituer le pouvoir, mais ATT n'a pas accepté de reprendre le pouvoir. C'est le président de l'Assemblée nationale du Mali, conformément à la Constitution, qui a fini ce mandat pour montrer qu'il fut un grand homme qui n'est pas attaché au pouvoir comme certains militaires en Afrique.
Il y a d'autres auditeurs qui souhaitent réagir. On enchaîne avec Richard. Il est au Cameroun. Bonjour Richard.
Bonjour Wane, bonjour aux auditeurs de RFI.
À Gaoundéré, vous êtes dans le centre-nord du pays. Alors ce qui est intéressant avec le Cameroun, c'est qu'il n'y a pas eu de conférence nationale dans votre pays.
Oui, je crois que après l'expérience du Bénin, le chairman du SDF, le feu Nidjon Frunzi, qui exige que le gouvernement organise aussi une conférence au Cameroun. Et je me rappelle de cette réponse sèche du gouvernement, c'était zéro conférence. Mais le chairman ne s'est pas découragé.
Si vous me permettez, Richard, j'ai même les propos de Paul Biya à l'époque. Il disait qu'une telle conférence était sans objet, car la Constitution prévoyait déjà le multipartisme. Et que si on voulait utiliser la conférence nationale pour critiquer le gouvernement, eh bien, les partis politiques étaient là et ils pouvaient s'exprimer.
Oui, justement, ça c'était dans l'esprit. Mais finalement, en 96, je ne sais pas pour quelle raison le gouvernement va décider de céder, mais de céder à sa manière plutôt en organisant ce qu'ils vont appeler la tripartite. Et je crois que l'avantage de cette tripartite pour le gouvernement, c'est qu'ils réussissent quand même à garder la main qui fait à ce que tout ce qui va sortir comme proposition vont rester en leur faveur. C'était ça la particularité au Cameroun.
Oui, la tripartite rassemblait, je le rappelle, les partisans du pouvoir, les représentants de la société civile et les figures de l'opposition. Gilles Yabi, le cas particulier du Cameroun suscite un commentaire ?
Oui, alors on sait que le Cameroun est toujours dirigé par Paul Biya et qu'il est candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle. Alors, elle n'est pas encore officielle, la candidature, mais on a du mal à imaginer qu'il décide maintenant de se retirer après un certain nombre de mandats à la tête de ce pays. Et donc, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas eu en réalité de changement dans le système et dans les pratiques politiques au Cameroun. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays du continent, notamment en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, il y a quand même eu réellement, en réalité, des alternances quasiment partout. Il y a eu des reculs et malheureusement, depuis quelques années, évidemment, on pense à un pays comme le Burkina Faso, dans les pays du Sahel, dans un pays comme la Guinée, évidemment aussi. On voit bien qu'on est dans une phase quand même aujourd'hui de contestation même du principe de l'état de droit et d'un certain nombre d'acquis en termes de choix d'organisation démocratique. Et c'est ça, je pense, moi, qui me préoccupe au plus haut degré.
Emery nous rejoint, il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour, Brahim. Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
La RDC, anciennement le Zaïre, vous disiez au Standard que dans votre pays, la conférence nationale souveraine s'était terminée en queue de poisson. Expliquez-nous.
Oui, si j'ai une bonne mémoire, un bon souvenir. En fait, il avait été instauré plusieurs commissions au niveau de la Conférence nationale souveraine qui faisaient des rapports tour à tour. Les deux dernières commissions, c'était la commission des biens mal acquis, si je me rappelle très bien, et la commission des assassinats politiques. Ces deux commissions, comme cela, allaient impliquer le pouvoir de l'époque jusqu'au président de la République à l'époque. Et donc, les autorités de l'époque avaient décidé de fermer de manière brutale la conférence nationale. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit qu'elle s'était finie en queue de poisson. Donc, on n'a jamais eu les rapports de la commission des biens mal acquis. On n'a jamais eu les rapports de la commission des assassinats politiques. Et directement, on est passé à... Je crois que c'était quelque chose comme au Conseil de la République. Ou quelque... Donc, il y a eu une sorte de goût d'inachevé, en fait. Dans...
Mobutu a tout fait pour bloquer les quelques résolutions adoptées lors de la conférence nationale. Pourtant, je me souviens, je ne sais pas si vous en souvenez, Gilles Yabi, des quelques larmes de Mobutu. En tout cas, il avait les larmes aux yeux lorsqu'il a annoncé devant son parti la fin du monopartisme.
Oui, bon, j'étais assez jeune, je pense, à l'époque, mais évidemment, on voit bien, lorsqu'on n'a pas ce moment qui permet de sortir de grandes difficultés, de crises de légitimité par le dialogue, ben en fait, l'autre option, c'est souvent les armes. Et c'est ce qui s'est passé dans l'ex-Zaïre. Finalement, Mobutu est tombé, mais on sait dans quelles conditions elle est tombée. Et on sait aujourd'hui encore dans quelles conditions, quelle est la situation aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, il y a ce long chemin historique et on oublie souvent qu'en fait, à chaque étape, on a des voies de sortie. Et lorsqu'on n'emprunte pas la bonne voie de sortie, on crée les conditions finalement notamment pour la violence, et ça peut durer très longtemps. On y est encore aujourd'hui en République démocratique du Congo.
Welcome, vous êtes à Pointe-Noire, pays voisin de la RDC, vous êtes au Congo, vous, bonjour.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, le seul ou les seuls acquis que nous avons de cette conférence nationale, c'est le multipartisme et la régularité d'organisation des élections, mais qui, comme le savons tous, sans émailler des sérieux problèmes de transparence. Parce que, n'oubliez pas que la conférence nationale chez nous fait passer d'un système monopartisan à un système multipartisan, mais avec les mêmes personnes qui hier animaient le système monopartisan, qui ont du mal aujourd'hui, évidemment, à pouvoir réellement faire dérouler les principes démocratiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à avancer.
Je vois le père Nathanaël Soédé prendre des notes en vous écoutant. Vous souhaitiez réagir au cas précis du Congo-Brazzaville, mon père ?
Oui, j'apprécie, mais je voudrais quand même que nous posions le débat autrement, tout en respectant le point de vue des gens. Tout est axé sur la conférence nationale, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en amont, qui me semble fondamental. C'est qu'on a eu des pays qui étaient en difficulté, ils ont voulu relever le pays. C'est le relèvement qui a suscité cette méthode-là qu'on a appelée la conférence nationale. Il faudrait qu'on se demande, pour ma part, aujourd'hui, même hier, si on voulait relever ces pays-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? pour ne pas avoir pour toujours comme méthode la conférence comme une affaire magique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les droits de la personne et instaurer la démocratie. Mais on doit voir à tout point de vue, au niveau des jeunes, des enfants, de l'économie, des rapports avec les autres pays, comment on peut relever aujourd'hui le continent africain ou chaque pays. C'est alors là qu'on va voir que la conférence, c'est un ordre de moment qui doit prendre d'autres noms aujourd'hui si nous voulons relever le continent africain.
Je vais donner la parole dans un instant à Gilles Yabi, mais d'abord, je voudrais qu'on accueille Saliou à Conakry, en Guinée. Bonjour Saliou.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous ceux qui écoutent RFI.
Alors, il n'y a pas eu de conférence nationale dans votre pays, la Guinée, mais comme nous parlons de démocratie, vous souhaitiez revenir, vous, sur le discours du général Doumbouya à la tribune des Nations Unies en 2023, discours dans lequel il a proclamé l'échec du modèle démocratique occidental sur le continent africain. Autrement dit, la démocratie, ça fonctionne en Occident, mais ça ne peut pas fonctionner en Afrique.
Oui, c'est ce que lui il a dit, hein, c'est ce que lui il a dit. Le modèle de gouvernance de l'Occident n'a pas de problème, mais plutôt c'est nos dirigeants qui ont des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie telle qu'on l'a définie, telle qu'on l'a lue dans les livres des auteurs de la démocratie, elle n'est pas appliquée à la lettre en Afrique. Sinon, en Afrique, l'adaptation dont il fait allusion, moi, je ne vois pas le problème de la démocratie, parce que chaque président qui vient, il trouve une constitution bien établie. C'est quand il trouve que cela va à l'encontre de ce que lui, il veut, il change automatiquement la constitution. Donc moi, je dis tout simplement que la démocratie, elle, telle qu'elle est définie en Occident, elle n'a pas de problème aux réalités africaines.
Mais en tout cas, c'est ce que pensait le général Doumbouya lors de son discours à la tribune des Nations Unies. Gilles Yabi, évidemment, vous avez été interpellé par ce discours, comme de nombreux intellectuels à travers le continent africain.
Oui, en fait, j'ai été consterné, c'est le mot juste, consterné par le discours et consterné peut-être encore davantage par le fait qu'un certain nombre de jeunes sur le continent aient cru à ce discours. Et je me réjouis que l'auditeur qu'on a entendu fasse bien la distinction de la démocratie en tant que système et la pratique politique qui, dans un pays comme la Guinée, n'a jamais été une pratique politique démocratique. Oui, j'ai été consterné, mais c'est un point très important parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un véritable besoin d'expliquer à nouveau que, d'abord, la démocratie n'est pas une forme d'importation ou d'imposition occidentale. La démocratie existe dans d'autres continents et dans les formes de gouvernance en Afrique précoloniale, il y avait des formes de discussion, de contrôle du pouvoir et comme cela existe aussi en Asie et ailleurs. Et je pense qu'il faut aujourd'hui travailler plutôt à la réconciliation de la démocratie et l'état de droit. Hein. Même aux États-Unis, on n'y croit plus à l'état de droit. Donc on a le devoir, je pense, de repenser effectivement nos systèmes en ayant au cœur le bien-être simplement des populations.
Théodore Olo, votre mot de la fin.
Mon mot de la fin, c'est qu'il faut que nous ayons la culture démocratique. Quand je prends les pays anglophones, généralement l'alternance intervient régulièrement par les unes. Et les habitants de ces pays ne sont pas des sujets, mais sont des citoyens. Or, la démocratie, c'est la faculté pour chaque individu d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Et par conséquent, si nous n'avons pas la culture démocratique, malgré les belles constitutions que nous avons, nos institutions ne vont pas fonctionner pour permettre le bien-être de chaque citoyen dans la liberté et garantir le vivre ensemble en harmonie. Donc, au mot de la fin, c'est que nous devons faire l'effort pour assurer la culture démocratique parce que ce sont les citoyens qui peuvent se battre pour garantir le bon fonctionnement des institutions dans le sens de leur propre promotion et de leur propre épanouissement.
Perso aidé, demain, 35e anniversaire de la conférence nationale au Bénin et c'est l'occasion pour l'Église catholique d'organiser un colloque ici même à Cotonou.
Voilà, un colloque à Cotonou, aussi le thème de l'esprit de la conférence des forces de la nation, un héritage pour la constitution nationale. Ce colloque donc rassemblera des acteurs politiques, des universitaires, des gens civils, des leaders religieux et tout. Ce sera à Cotonou, et à la salle Saint-Chabel, et le Vieux Pont, comme on le dit, ou l'Ancien Pont, à Kpakpa.
Très bien. Bah, les auditeurs seront certainement nombreux à s'y rendre pour écouter les différents intervenants. Demain, jour anniversaire ici au Bénin, anniversaire de la Conférence nationale des forces vives. Nous serons donc de nouveau à Cotonou et nous donnerons la parole exclusivement aux Béninois. L'émission sera d'ailleurs enregistrée dans moins d'une heure à l'hôtel Azalaï. Donc on vous attend très très nombreux. Venez nous rejoindre et débattre avec nos invités. Merci à tous les trois. En tout cas, Théodore Holo, Gilles Yabi et le père Nathanaël Souédé. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Nicolas Benita, Michael Verne, Jessica Taïeb, Chloé Gomez, Maud Georget ou encore Fouque Foller. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal. Priorité santé, prenez soin de vous et à demain, 8h10, temps universel.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé Appel.